Transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Vous nous suivez à la radio et en images, en direct sur la chaîne YouTube de RFI. Dans 30 minutes, notre débat du jour et nous parlerons tout à l'heure de cette décision du Niger, du Burkina Faso et du Mali de claquer la porte de l'Organisation internationale de la francophonie pour justifier cette rupture. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont tourné le dos à la France et qui ont quitté la CEDEAO, ces trois pays mettent en avant leur souveraineté. Alors êtes-vous surpris par cette décision? Quelles peuvent être les conséquences de ces retraits? Et ce sera l'occasion également cette semaine et ce matin de lancer le débat sur l'action de l'OIF. L'organisation répond-elle à vos attentes? Vos commentaires, vos réflexions nous intéressent. 33 9 693 693 70 et vous avez été très nombreux. On a eu des dizaines et des dizaines de réactions envoyées sur le compte WhatsApp de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec Séverin qui nous écoute à Sotobois. C'est au centre du Togo. Bonjour Séverin.
Bonjour Juan Gomez.
Et bienvenue. Vous avez des questions sur une affaire d'espionnage au ministère français de l'économie et des finances.
Oui, bien sûr. Un fonctionnaire franco-algérien a été mis en examen pour soupçon d'espionnage. Je voudrais savoir quel type d'informations auraient été transmises au service de renseignement algérien.
Ah, bonne question que vous posez. Alors l'information n'a été révélée que la semaine dernière dans la presse, mais la mise en examen de cet employé de Bercy remonte au mois de décembre. Bonjour Amélie Beaucourt.
Bonjour Juan.
Journaliste au service France de RFI. Alors ce fonctionnaire du ministère de l'économie est soupçonné d'intelligence avec une puissance étrangère. Il aurait été en contact avec un agent des renseignements algériens. Sait-on quelles informations les deux hommes s'échangeaient?
Eh bien, ce fonctionnaire de Bercy aurait fait sortir de son ministère des données privées concernant des opposants au régime d'Abdelmadjid Tebboune, le président algérien. Selon l'agence France Presse, il s'agit par exemple de personnes qui sont en conflit avec les autorités, d'une personne qui a déposé plainte contre un général en Algérie, mais aussi plus largement d'opposants politiques, de journalistes, de personnes de la diaspora considérées comme influentes. Et leur point commun, eh bien, c'est qu'elles vivent désormais en France et sont donc enregistrées dans les fichiers de Bercy, pour celles qui paient des impôts, et dans les fichiers de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ces données en question, elles concernent donc des infos très personnelles, hein, l'état civil de l'individu, son adresse résidentielle, son lieu de travail, ses coordonnées téléphoniques, son statut administratif, est-ce qu'il a un titre de séjour, quand est-ce qu'il expire, est-ce qu'il a déposé une demande d'asile. Et c'est en constatant ces fuites suspectes à l'extérieur du ministère que l'alerte est donnée en mai 2024 contre ce fonctionnaire franco-algérien de 56 ans. Les enquêteurs de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, l'interpelleront quelques jours plus tard, en juin 2024.
Oui, et c'est à ce moment-là de l'enquête que la DGSI, donc les services du renseignement intérieur, découvrent le destinataire de ces informations confidentielles. Et il s'agit en fait d'un employé du consulat d'Algérie à Créteil, en région parisienne. Que sait-on de cet homme?
Oui, il le découvre effectivement en fouillant dans ses téléphones portables. On sait que cet homme a été identifié par le contre-espionnage français comme un agent des renseignements algériens. Il avait un poste officiel au consulat. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas été interpellé, lui, puisqu'il bénéficie d'une immunité diplomatique. Le journal Le Parisien révèle qu'il serait retourné en Algérie depuis et raconte que, selon les enquêteurs, c'est lui qui aurait approché en premier le fonctionnaire de Bercy, qui l'aurait intimidé notamment pour le pousser à lui transmettre des informations en utilisant sa position au ministère. La DGSI tente maintenant d'identifier d'autres personnes que l'espion algérien, celui du consulat, aurait pu approcher dans un but similaire.
À suivre donc. Séverin, vous avez une dernière question?
Oui, cette dernière question concerne comment un employé du ministère de l'économie a-t-il pu avoir accès à ces informations confidentielles ?
Eh bien, ce qu'on sait, Séverin, d'abord, c'est qu'il occupait une position plutôt avantageuse au ministère. Il était cadre et chef de secteur dans l'une des sous-directions, donc c'est plus facile pour avoir accès à tout un tas de logiciels et donc à ces informations confidentielles. Et il aurait eu une complice, une assistante sociale de l'Office français de l'immigration. On lit dans la presse que les deux employés auraient eu une liaison. Alors, sans verser dans le cliché du roman d'espionnage, on sait en tout cas que cette femme d'une quarantaine d'années a elle aussi été placée sous contrôle judiciaire en février pour violation du secret professionnel. Après, il y a énormément de zones d'ombre dans cette histoire. On a contacté les avocats des deux fonctionnaires mis en cause, mais ils n'ont pas souhaité s'exprimer. L'avocat du fonctionnaire de Bercy avait seulement dénoncé une campagne de menaces et de manipulations dont serait victime son client de la part d'une puissance étrangère qui resserre son étau autour de lui. Puis vous le savez, cette affaire a été rendue publique en pleine tension diplomatique entre Paris et Alger.
Des tensions qui se poursuivent. Séverin, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, parfaitement. Merci Juan Gomez, merci Amélie et salut à tous les fonctionnaires de la SAFER à Sotoboua.
Merci, ah, c'est vraiment
bien. Bah, écoutez, on les salue également. Vous nous suivez sur YouTube en ce moment. Il y a Prosper qui nous regarde. Il est à Lomé. Il dit bonjour RFI. Eh bien, bonjour à vous, Prosper. À très vite, Amélie Beaucourt, journaliste au service France de RFI. 9h16 à Paris. Daniel Vallaud, journaliste au service international de RFI, nous a rejoint. Bienvenue, Daniel.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous.
On a des questions sur la Serbie et ce mouvement de protestation qui dure maintenant depuis plus de 4 mois. Bonjour Abel.
Bonjour Angamel.
Bienvenue, vous avez des questions après avoir suivi les journaux de RFI.
Oui, effectivement, depuis plusieurs mois, les Serbes manifestent massivement dans les rues de Belgrade.
Oui.
Donc, à ce propos, je voudrais savoir qu'est-ce qui explique une telle mobilisation et quelles sont les revendications des manifestants ?
Il y avait du monde, hein, samedi, dans les rues de Belgrade, des dizaines de milliers de personnes venues de tout le pays. Alors, 100 000 selon la police, plus de 300 000 hein, selon une organisation de comptage indépendante. En tout cas, ce qui est sûr, Daniel Vallaud, c'est qu'il s'agissait là de la plus importante manifestation de ces 25 dernières années. Pourquoi une telle mobilisation ?
Alors, au point de départ, il y a un incident tragique, il faut le rappeler, l'effondrement de l'auvent en béton de la gare de Novi Sad. C'était le 1er novembre dernier, effondrement qui fait 15 morts et qui suscite immédiatement une émotion et une indignation qui ne sont toujours pas retombées en Serbie. Pourquoi ? Eh bien parce que cette gare venait tout juste d'être rénovée par un groupe de BTP chinois et cela illustrait donc de façon absolument tragique la corruption qui s'est inséminée en Serbie sous la houlette du président serbe Aleksandar Vučić et l'opacité totale qui entoure depuis des années les grands travaux d'infrastructure avec ses conséquences tragiques. Tout cela a entraîné des manifestations qui n'ont cessé au fil des semaines de prendre de l'ampleur, avec en particulier une mobilisation des universités et des étudiants, les universités dont la plupart sont occupées et bloquées depuis le mois de décembre.
Et quelles sont concrètement les revendications des manifestants ?
Alors il y a 4 revendications qui sont rappelées à chaque rassemblement et qui n'ont pas dévié depuis le début. Premièrement, la publication de tous les contrats de rénovation de la gare de Novi Sad et des documents associés. Deuxièmement, que tous les responsables de l'effondrement de l'auvent de la gare soit jugé. Troisièmement, que des poursuites soient engagées contre les policiers qui ont agressé des manifestants et que les poursuites engagées contre les manifestants arrêtés soient levées. Enfin, les étudiants demandent, ça c'est une demande spécifique aux universités, la baisse des frais de scolarité. Voilà, ce sont des revendications concrètes, mais derrière, en filigrane, ce que veulent les étudiants et ceux qui rejoignent leur mouvement, c'est véritablement la fin de la corruption et le respect de l'état de droit en Serbie. Et dans l'esprit des manifestants, ce qu'ils veulent, c'est la fin du régime Vučić, qui est à leurs yeux à la fois corrompu et clientéliste.
Vous avez une dernière question, Abel ?
Oui, comment se positionne le président serbe face à cette situation ?
Alors,
Daniel.
Oui, le président Vučić, il a manié deux tactiques, on peut dire, hein, la carotte et le bâton, en alternant les concessions qui sont jugées insuffisantes par les étudiants et les manifestants et les mesures qui visent à étouffer le mouvement. Il a tenté, par exemple, de discréditer les manifestants en les accusant d'être les agents d'une révolution de couleur, accusation classique dans les pays d'Europe de l'Est.
Révolution de couleur, a-t-il dit, je le cite, hein, menée par des agences étrangères.
Voilà, donc ça ça ressemble un petit peu au genre d'accusation qu'on peut trouver en Russie de la part des autorités russes. Rappelons qu'Alexandre Vučić est un ami, un proche en tout cas de Vladimir Poutine. Vučić qui a utilisé à la fois les médias et ses relais dans l'opinion pour discréditer le mouvement, mais jusqu'à présent il n'y est pas parvenu. D'ailleurs, samedi soir, à l'issue de cette grande manifestation, il a reconnu finalement que cette manifestation était importante et qu'il fallait tout de même en tenir compte. Il a tenu un discours beaucoup moins agressif que ces dernières semaines. Vučić temporise, il compte sans doute à la fois sur un essoufflement de la mobilisation, ce qui n'est pas sûr, et surtout sur l'éventualité d'élections anticipées qu'il pourrait déclencher. Ça, c'est un scénario que les étudiants et l'opposition veulent à tout prix éviter parce que, à leurs yeux, ces élections seront forcément manipulées. Ce qu'ils demandent, c'est la formation d'un gouvernement de transition, et ça, Vučić, pour l'instant, le refuse en bloc.
Abel, voilà pour les explications de Daniel Valot. Êtes-vous comblé ?
Merci beaucoup, je suis comblé.
Bon, grand merci. Un grand merci à Daniel Valot du service merci international de RFI. Bonne journée à tous les deux. N'oubliez pas, dans 20 minutes, vos réactions après la décision du Niger, du Burkina Faso et du Mali de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie. Vos réactions, évidemment, nous arrivent sur les réseaux sociaux. On fait le maximum pour appeler le plus grand nombre d'entre vous. Vous pouvez également nous appeler directement au standard 33 9 693 693 60. Les réactions sont nombreuses et les questions également, elles sont nombreuses après la décision de ces trois pays de l'AES de claquer la porte de l'OIF. Qui avons-nous pour commencer ? Kodjo, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Merci pour tout ce que vous faites.
Et
vous
merci.
Étiez en Guinée, au Bénin.
Oui.
Merci, merci, merci. Un grand coucou pour tout ce que vous faites pour le peuple africain.
Remercier surtout RFI et toute l'équipe d'Appel sur l'actualité qui m'aide au quotidien à préparer, à vous présenter cette émission. Kodjo, quelles sont vos questions ?
Oui, quelles raisons les autorités nigériennes, burkinabées, maliennes ont-elles donné concernant leur retrait de l'OIF ?
Ah oui. Oui, pourquoi ont-elles décidé de quitter l'Organisation internationale de la francophonie ? Bonjour Alassane Diaye.
Oui, bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes le chef du service des instances de l'OIF, le service qui gère les États et gouvernements membres. Alassane Diaye, les auditeurs, évidemment, n'ont pas pris connaissance des lettres officielles adressées pour annoncer justement le départ de ces trois pays. Quelles sont les raisons invoquées par Niamey, Ouagadougou et Bamako ?
Bonjour Monsieur Gomez, bonjour à tous vos auditeurs. Effectivement, l'Organisation internationale de la francophonie a reçu copie des notifications par le Burkina et le Niger de leur décision de se retirer de l'OIF. Et ce sont des décisions que l'OIF a regrettées et regrette et déplore en même temps. Mais ce sont des décisions que l'organisation respecte. Pour la simple raison que chaque pays, comme vous le savez, adhère librement et de manière souveraine à des conventions internationales. Et pour la même raison, chaque pays peut décider de manière tout aussi libre et souveraine de se retirer des conventions internationales.
Évidemment, mais ces trois pays, j'ai cru comprendre Alassane Diaye, ont mis en avant leur souveraineté pour justifier leur départ.
Effectivement, et c'est ce que nous respectons. Nous respectons le droit de chaque pays d'exercer pleinement sa souveraineté dans le cadre des enceintes internationales. Et c'est prévu par la charte de l'OIF en son article 10 plus précisément. Et sans que la décision de se retirer soit sortie d'une quelconque obligation de motiver cette décision.
Oui. En même temps, excusez-moi, dans leur motivation, et en l'occurrence le Mali, Bamako est pour le moins critique à l'endroit de la francophonie. J'ai sous les yeux un extrait justement de cette lettre officielle. Je cite « Depuis l'avènement de la transition, l'OIF, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation des aspirations légitimes de son peuple, s'est illustré par l'application sélective des sanctions et le mépris pour la souveraineté du Mali ».
Alors, pour le cas que vous citez, nous n'avons pas à ce stade reçu officiellement notification de cette décision. Nous avons reçu celle du Niger, de la République du Niger et celle du Burkina Faso. Mmh. Et personnellement, j'ai découvert, peut-être comme votre auditeur, c'est la décision concernant ce pays que vous citez.
Le Mali.
Le Mali, voilà, dans les réseaux sociaux. Mais cela dit, dans les correspondances reçues, il est effectivement fait mention, allusion, je dirais, aux décisions prises par les instances dirigeantes de l'organisation en 2022 et en 2023 pour ce qui concerne le Burkina et le Niger. Mais je dois préciser une chose à l'attention de aux auditeurs. Les décisions que prend l'organisation sont fondées sur les mêmes principes. Ces principes sont portés par les mêmes textes et ces textes sont adoptés par les États et gouvernements membres eux-mêmes, y compris le Burkina, le Mali et le Niger. Il n'y a pas d'application différenciée. Chaque situation est examiné selon les mêmes procédures et selon les mêmes principes.
Alors, justement, on va redonner la parole à Kodjo dans un instant, mais je me fais le porte-parole de Touré. Il est chauffeur routier, il est en Côte d'Ivoire. En ce moment, il est en pleine route, donc il ne peut pas prendre le téléphone. Mais il nous dit sur WhatsApp, pourquoi ces trois pays ont-ils été suspendus de l'OIF, qui n'est pourtant pas une organisation politique? Effectivement, ces trois pays, avant de claquer la porte, ça faisait quand même plusieurs années qu'ils étaient suspendus de l'organisation.
Oui, ces trois pays ont été suspendus par les instances dirigeantes de l'organisation en application encore une fois des textes. Et l'un des textes majeurs qui sert de soubassement à ces décisions s'appelle la déclaration de Bamako. Vous voyez le lien donc au Mali. C'est un texte qui a été adopté en novembre 2000 au Mali. Et c'est un texte qui habilite l'organisation à examiner les situations politiques des États membres, à s'y prononcer et si besoin à prendre des mesures adaptées.
Oui, cette déclaration, pour résumer, considère que francophonie et démocratie sont indissociables et si la démocratie n'est pas respectée, si des violations graves des droits de l'homme sont constatées, dans ce cas-là, l'organisation peut effectivement sanctionner le pays membre en question. Alassane Diaye, restez avec nous parce que Kodjo a une autre question à vous poser et le temps passe très vite. Kodjo, allez-y, votre dernière question.
Oui, quelles étaient ces réalisations et actions dans les pays concernés?
Que faisait, autrement dit, que faisait la francophonie au Mali, au Burkina Faso et au Niger, trois pays qui, je le rappelle, sont suspendus depuis plusieurs années?
Oui, l'organisation fait beaucoup de choses dans ces pays, hein. C'est un partenariat. Et ce que elle fait en termes de réalisation et d'action couvre un vaste champ qui va de l'éducation à la formation, au numérique, le renforcement des capacités des femmes et des jeunes en matière d'entrepreneuriat, les questions d'environnement. C'est une vaste palette d'éléments de coopération dont bénéficient en priorité les populations de ces pays.
Et des populations qui ne pourront plus bénéficier de ces programmes, maintenant que ces trois pays ont décidé de se retirer de l'OIF. Ibrahima nous rejoint, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes en Guinée, nous vous écoutons.
Ma première question, qu'est-ce que ces pays apportaient à l'organisation?
Alassane Diaye.
Oui, je voulais préciser pour votre précédent auditeur, c'est que le souhait de la hiérarchie de l'organisation aujourd'hui, c'est que ces programmes et projets qui bénéficient à ces populations puissent continuer à être déployés dans ces pays et que donc, n'est-ce pas, les décisions soient sans préjudice de ces programmes-là. Alors, pour ce qui est ce que ces pays apportent à l'organisation, bon, je pense que les pays concernés eux-mêmes sauront mieux le dire, mais tout ce que je veux relever, c'est que dans la vie internationale, les partenaires s'apportent mutuellement. Les États membres cotisent, s'acquittent de contributions qui permettent à l'organisation de fonctionner, mais en retour, l'organisation développe des projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, des projets qui bénéficient à ces États et à leur population, d'une manière directe ou d'une manière indirecte. C'est ce que l'OIF fait au quotidien, c'est son travail et je crois que les pays concernés et la majeure partie des pays membres de l'organisation saluent habituellement le travail de l'OIF dans ces domaines-là.
Bon, en tout cas, ces trois pays, eux, ont décidé de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie. On va en parler juste après le journal avec les nombreux auditeurs qui sont déjà au standard. Merci à Alassane Diaye d'avoir été avec nous ce matin sur RFI, chef du service des instances de l'OIF.